Pour démarrer. Seigneur, on a chanté pour te dire qu'on t'aime, qu'on a envie que tu sois présent dans nos vies. Eh bien, je veux t'apporter ce petit moment ce matin, Seigneur, que tu nous parles à chacun par ta parole, par ce que je vais dire ce matin. Seigneur, je te demande de nous rencontrer chacun là où on en est, que tu puisses nous dire quelque chose qui vienne de toi. Merci, Seigneur. Amen. Alors, moment fatidique. Ce sera mieux avec les images. Non, t'as pas envie. Tout à l'heure, ça avait marché. Allez, on va faire ça comme ça. Ouais, ça c'est bien. Et maintenant, si je fais ça... Ouais. Et j'ai mes notes en même temps. Ça, c'est pas mal. Sinon, ce serait un peu plus décousu. Bon, donc ce matin, on va continuer notre série des histoires d'école du dimanche. Ce qu'on veut dire par là, c'est toutes ces histoires de l'Ancien Testament qu'on enseigne aux enfants à l'école du dimanche. Et peut-être qu'à force, les enfants les connaissent mieux que nous. Donc si vous n'avez pas tout compris ce matin, demandez à un enfant, il va vous expliquer. J'ai choisi l'histoire de Jacob et Ésaü, plus précisément le moment où Jacob va voler la bénédiction de son frère Ésaü. Donc, si vous ne connaissez pas l'histoire, ne vous inquiétez pas, on va y venir tout doucement, je vais vous donner tout le contexte. Parce que j'aime bien cette histoire, et puis finalement, j'ai commencé à gratter, et puis plus j'ai gratté, plus j'avais des questions, et moins il y avait forcément de réponses toutes faites dans le texte, donc je trouvais ça intéressant. Donc, on va y aller. Mais du coup, avant de parler vraiment de l'événement du vol de la bénédiction, on va commencer par un peu de contexte. Donc, on va commencer par un jeune couple amoureux, Isaac et Rebecca. Donc, ils aimeraient avoir des enfants, mais ce n'est pas possible. Rebecca est stérile, en tout cas, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et donc, Isaac prie à Dieu, et enfin, Rebecca tombe enceinte. Yes ! Non seulement elle tombe enceinte, pas d'un enfant, mais de deux, des jumeaux. Donc, ils voulaient un enfant, Dieu leur en a donné deux. C'est magnifique. On pourra aussi réfléchir un peu dans sa vie. Des fois, j'ai demandé des trucs à Dieu, il m'en a donné plus, beaucoup plus que ce que je voulais, même parfois trop. Donc, pendant qu'elle est enceinte, Rebecca, elle reçoit une promesse de Dieu. Elle sent les deux garçons qui se cherchent, qui se... Peut-être pas qu'ils se bastonnent, mais qui se rentrent un peu dedans dans son ventre. Et elle dit au Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Et elle reçoit cette prophétie, cette promesse. L'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit, ou le plus grand servira le plus petit. Ok, drôle de promesse. Et enfin, Rebecca, eh ben elle accouche de deux beaux garçons, Ésaü, qui naît le premier, à gauche, et pas assez poilu dans cette image, Ésaü est très poilu apparemment, Ésaü, qui naît le premier, et Jacob, donc, qui suit juste derrière. Et donc le texte nous dit, les enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Et voilà, on a le premier élément de décor pour notre histoire. Ésaü était un homme de la nature, un explorateur, sûrement un homme costaud, qui partait à la chasse, à l'aventure. Et Jacob, par contre, eh ben, il était plutôt tranquille, il restait à la maison, calme, peut-être qu'il aimait lire, réfléchir, peut-être chanter, cuisiner, on ne sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'était deux frères quand même très différents. Et cette différence entre eux va être à l'origine quand même de pas mal de problèmes pour eux deux, même s'ils ne sont pas aidés par leurs parents, comme on va le voir. Et je m'arrête là sur cette réflexion de me dire, mais finalement, nous aussi, on peut avoir un frère, une sœur, un collègue, très différent de soi, avec qui le courant passe moyen. Et c'est beaucoup plus facile d'aimer quelqu'un qui me ressemble, n'est-ce pas? Quelqu'un que je comprends, quelqu'un qui réfléchit comme moi, quelqu'un qui aime ce que j'aime, on a tant de choses en commun, à partager, c'est facile. Et quand on arrive en face de quelqu'un qui est un peu différent, eh ben, on a du mal à comprendre. Pourquoi il fait ça? Ah bah pourquoi? Ah bah non, ah bah pff, c'est compliqué avec lui. On a beaucoup plus de mal à aimer ceux qui sont différents. Sans même parler trop des hommes et des femmes, hein, puisque finalement on s'aime parce qu'on est différent et que c'est magnifique, et en même temps on se prend la tête parce qu'on est différent et qu'on ne comprend pas. Et bon, Ésaü et Jacob, ils avaient du mal à se comprendre. Et c'est le début de notre mise en scène. Prochain verset, deuxième élément clé. Isaac, donc le papa, Isaac aimait Ésaü. Parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob, que j'ai schématisé comme suit. Rebecca, elle aimait Jacob, qui restait à la maison. Et Isaac, il aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier. Bon, je peux imaginer que c'est pas juste le goût de la viande, mais peut-être le fait aussi que peut-être Isaac aussi aimait bien chasser, qu'il se retrouvait dans les mêmes choses que son fils Ésaü. Mais ce que nous dit ce verset, c'est que les parents ont chacun leur préféré. Il manquait plus que ça pour que ça se passe mal. Donc non seulement les deux jumeaux sont très différents l'un de l'autre, mais papa il aime Ésaü et maman elle aime Jacob. Alors de là, ça ne peut pas bien se passer. On a tous les ingrédients pour la catastrophe qui va arriver juste derrière. Donc parents, j'espère que vous n'avez pas d'enfants préférés, hein? Oui, peut-être qu'on va avoir plus de facilité à comprendre l'un ou l'autre de nos enfants. Peut-être qu'on va avoir plus de facilité à s'entendre l'un ou l'autre de nos enfants. Mais ils méritent chacun notre amour au même titre. Et je pense que le Seigneur nous invite à nous efforcer à leur montrer le même amour à chacun et ne pas avoir de préféré. En tout cas, on sait que Dieu, lui, de son côté, n'a pas de préféré. Dans la parole, Dieu ne fait pas de considération de personne. Et donc ici, c'est le début des problèmes. Dernier élément de contexte, cette histoire de soupe de lentilles. Hein, vous voyez de quoi je veux parler ou pas ? Soupe de lentilles. Alors, je vous lis le texte. On est en Genèse 25 ici, hein, je ne l'ai pas dit, pardon. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là, de cette soupe. » Car je suis fatigué. Et c'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. D'Édom. Jacob lui dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea, il but, puis se leva et s'en alla. Et c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. C'est quoi cette histoire de droit d'aînesse ? Le droit d'aînesse, c'est pas un truc qu'on connaît, ça n'existe pas vraiment de nos jours, mais c'était une pratique qui se faisait bien à l'époque. Donc, de nos jours, si mes parents meurent, eh ben, on prend tout ce qui leur appartient et on le divise parmi leurs enfants. Donc nous, on est 5 enfants, mes parents ont 5 enfants, donc chacun 1/5. À part, sauf disposition particulière, etc. Donc, départ égal pour chaque enfant. À l'époque, ce n'était pas tout à fait comme ça, parce que le premier-né, le fils aîné, le plus grand, devait recevoir plus que tous les autres. Il devait recevoir une double part. D'accord ? Donc, si Isaac, le papa, devait mourir, eh ben, on divisait ce qu'il avait en 3, et on donnait 2 parts à Ésaü, parce que c'était le premier-né, et 1 part à Jacob. C'est ce qui devait se passer, c'est ce qu'ils appelaient le droit d'aînesse, le droit d'être le plus aîné, le droit d'aînesse. Et donc, Ésaü revient des champs. Hein, il est parti, il a chassé, il a été à droite à gauche, je ne sais pas ce qu'il a fait, et il est fatigué. Est-ce que vous avez déjà fait une course à pied un peu longue, un marathon, un exploit sportif quelconque, et quand vous avez fini, vous aviez faim? Alors moi, ce texte, ça me fait rire parce que vendredi, j'ai fait une randonnée. J'ai fini dans un état lamentable, mais vraiment lamentable. Je suis rentré, je me suis couché, j'ai vomi, c'était horrible. D'accord ? Et donc, du coup, j'ai un peu d'empathie là avec Ésaü parce que vraiment, il devait pas être bien. Il dit qu'il va mourir. Alors, est-ce qu'il faisait un peu de cinéma ? On n'est pas sûr, mais en tout cas, il devait pas être bien. Et je pense que à ce moment-là, Jacob, il se dit... Je vais profiter de la situation. Mon frère, qui normalement est si fort, si costaud, etc., ben là, il est plus si fort, il est plus si costaud. Alors, je vais profiter de la situation pour abuser un petit peu de sa situation et récupérer ce que je veux. D'ailleurs, je pense qu'en France, de nos jours, on appellerait ça abus de personnes vulnérables. Et Jacob, il risque 3 ans de prison et une amende de 375 000 euros. Mais bon. Ceci étant dit, bah effectivement, Ésaü peut-être qu'il fait un peu de cinéma. Hein. Le texte biblique nous dit quand même qu'il a méprisé son droit d'aînesse, ça veut dire qu'il a considéré que c'était pas quelque chose d'important. Donc peut-être qu'il n'était pas si près de mourir. Quoi qu'il en soit, cette histoire, eh ben, ça met le boxon déjà entre les frères qui avaient du mal à se comprendre. Et donc, ça nous apprend aussi déjà qu'à cette époque, Jacob était jaloux de son frère. Il était jaloux de cette histoire de droit d'aînesse. Il n'était pas en paix avec sa situation de deuxième. Peut-être que sa maman lui avait raconté la prophétie qu'elle avait faite, hein, que le plus grand servirait le plus petit. Et ben Jacob il dit, bah, c'est pas normal alors s'il va me servir. Peut-être. Peut-être que juste Jacob trouvait le principe du droit d'aînesse injuste, ce qu'on pourrait aussi peut-être entendre. Mais peu importe, il a... mouliné, il a broyé tout ça dans son cœur, à mon avis, pendant un long moment. Cette histoire de jalousie ou d'injustice ou de sentiment de c'est pas juste, pourquoi lui, pourquoi ? Et à un moment, s'est présenté une occasion, bam ! Et il s'est saisi de l'occasion. Et là aussi, on peut se demander, toi et moi, vous et moi, est-ce qu'on n'a pas des situations d'injustice, de jalousie dans notre cœur ? Des situations... où on n'est pas tout à fait bien, on est un petit peu en colère, mais c'est pas grave, on n'en parle pas, on le laisse pourrir, mariner, comme on veut. Et bien le danger, c'est comme Jacob, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir une occasion de chute et on va tomber dans le panneau droit dedans. Parce qu'on n'a pas traité, on n'a pas demandé au Seigneur de nous aider avec ses émotions, de nous aider à accepter la situation peut-être, ou pardonner. Et du coup, le jour où l'occasion arrive, eh ben, on tombe dedans, comme Jacob, on fait des bêtises. Donc, hein, quand on est en colère, quand on sent une situation d'injustice, on peut toujours la porter devant Dieu, et lui demander de nous donner son regard sur la situation, et de guérir les blessures qu'on trimballe, pour qu'on ne perpétue pas la colère et l'injustice. D'autant plus que, je vous donne un petit spoiler de la fin de l'histoire, mais cette histoire de droit d'aînesse, c'est très bien, mais finalement, en vrai, Isaac, le papa, il vit très 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 longtemps. Et quand il meurt, ses deux fils sont déjà assez âgés et très très riches. Et ni l'un ni l'autre n'a rien à faire du droit d'aînesse, ça n'a plus d'importance pour eux. Donc Jacob, là, il est en train de profiter de son frère, de mettre le bazar dans les relations pour finalement un truc qui ne lui servira absolument à rien. Et comme nous, malheureusement, c'est souvent le cas. Bon, voilà pour le décor. Les deux frères, c'est un peu le bazar. Les parents, ils ont leur préféré. Et puis, on arrive dans cette histoire de bénédiction et de vol de bénédiction. Donc, on va lire le texte en deux parties, puis je vais faire un peu des commentaires. Donc, Genèse 27. Isaac devenait vieux et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela son fils aîné, Ésaü, et lui dit « Mon fils !» Il lui répondit « Me voici !» Isaac dit « Je suis maintenant âgé, et je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc tes armes, ton carquois, ton arc, et va dans les champs chasser du gibier pour moi. Prépare-moi un plat comme je les aime, et apporte-le-moi à manger, afin que je te bénisse avant de mourir. » Rebecca entendit ce que Isaac disait à son fils Ésaü. Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et le rapporter. Quant à Rebecca, elle dit à son fils Jacob, J'ai entendu ton père dire à ton frère Ésaü, « Apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat que je mangerai. Je te bénirai alors devant l'Éternel avant ma mort. » Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Va me prendre deux bons chevreaux dans le troupeau. J'en ferai pour ton père un plat comme il les aime et tu le lui apporteras à manger afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Mon frère Ésaü est velu et poilu, tandis que moi je n'ai pas de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. J'attirerai alors sur moi la malédiction et pas la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction retombe sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement et va me prendre les chevreaux. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui prépara un plat comme son père les aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements de son fils aîné, Ésaü, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à son fils cadet, Jacob. Elle couvrit ses mains et la partie lisse de son cou de la peau des chevreaux. Puis elle plaça dans la main de son fils Jacob le plat et le pain qu'elle avait préparé. Rebecca, elle y va très fort, vous avez vu ça? Elle dit que cette malédiction tombe sur moi. Fais ce que je t'ordonne. Elle est en train de dire, on sait que c'est mal, on sait que Dieu, il ne va pas être content, mais la malédiction, ce sera pour moi, mon fils. Va, va, toi. Waouh. Jacob, il résiste un petit peu, mais pas tant que ça. Hein. Vous avez vu, au final, il dit même pas à sa mère, je veux pas le faire, c'est pas bien. Il dit, je vais passer pour un menteur aux yeux de mon père. Bah, tu seras un menteur aux yeux de tout le monde si tu mens. Bon, en tout cas, il a juste peur de se faire choper, j'ai l'impression. Donc là où c'est triste, ça commence à être triste cette affaire, c'est que Rebecca, elle parle de malédiction. Bah, on pourrait noter qu'on ne parle plus du tout de Rebecca dans le livre de la Genèse après cet événement. Même sa mort n'est pas rapportée. Et a priori, elle ne revoit plus Jacob, son fils, après cet événement, il va partir, etc., on va voir. Donc j'imagine que la fin de sa vie était probablement bien triste. Peut-être qu'effectivement, en quelque sorte, elle a été punie pour ce qu'elle a fait. Mais surtout, il y a un truc qui me manque dans ce texte, c'est, mais enfin, pourquoi? Pourquoi ils ont voulu faire ça? Pourquoi c'était si important pour Rebecca et pour Jacob d'avoir cette bénédiction? D'accord, ils savent que c'est mal. Mais Rebecca veut que son fils soit béni par son père, et cette bénédiction, elle est plus importante que tout. Bon, on peut dire deux mots sur la bénédiction, parce que ce n'est pas très clair pour nous c'est quoi cette histoire de bénédiction. Visiblement, à l'époque, il y avait une pratique selon laquelle le père, vers la fin de sa vie, ou du moins quand il pensait être à la fin de sa vie, parce qu'Isaac, il pense être à la fin de sa vie, mais en fait, il ne va pas mourir tout de suite. Hein. C'est 20, 30 ans plus tard, je crois, un truc comme ça. En tout cas, vers la fin de sa vie, le père bénissait l'un, l'autre, tous ses fils. On voit Jacob qui, à la fin de sa vie, bénit ses 12 fils. Hein, il les réunit tous et il donne des bénédictions à chaque fils, etc. On voit Noé qui a béni deux de ses fils et qui a maudit le troisième. Hein. Et on comprend dans cette histoire que Isaac a prévu de bénir seulement Ésaü. Alors, est-ce que c'est parce qu'il préférait Ésaü? Est-ce que c'est parce que c'était l'aîné? On ne sait pas trop, mais on a compris qu'Isaac a prévu de bénir Ésaü et c'est tout. C'est probablement injuste. Hein. On pourrait même dire qu'Isaac, il refuse en quelque sorte la volonté de Dieu, parce que d'un côté, sa femme a fait une prophétie comme quoi le plus grand servirait le petit, et Isaac, il s'apprête à bénir le plus grand, enfin le plus aîné, pardon, en lui disant de régner sur le petit. Donc on pourrait dire, Isaac, ça n'a pas trop de sens ce que tu veux faire. En tout cas, Jacob et Rebecca sont prêts au mensonge et à la tromperie pour obtenir cette bénédiction. Et je me suis demandé en lisant ça, mais est-ce qu'on peut corriger une injustice avec un mensonge? Est-ce que c'est un bon plan, ça? Je pense que ce n'était pas un bon plan. Et donc je me suis demandé, mais pourquoi, enfin, ils ont voulu faire ça? Et j'ai pu imaginer deux motivations possibles. Il y en a peut-être d'autres, mais je vous en propose deux. Nous avons à gauche la peur et à droite l'ambition, ou l'avarice si vous préférez. Donc l'ambition, peut-être que Jacob voulait être quelqu'un de grand, de riche, d'important, et qu'il voyait cette bénédiction de la part de son père comme un moyen pour y arriver. Ah bah si j'ai Dieu qui m'a béni, eh bah, c'est sûr que je vais réussir. Ou peut-être que c'est Rebecca qui voulait ça pour Jacob, je ne sais pas. Deuxième idée que j'avais, c'était la peur. Parce qu'on peut se demander légitimement ce qu'il pensait allait se passer à la mort d'Isaac. On sait qu'Ésaü n'aime pas son frère. Donc à la mort du père, est-ce que finalement Jacob n'était pas inquiété que son frère peut-être le chasse, qu'ils doivent partir de là? Est-ce qu'il aurait les moyens de vivre? En plus, on sait que c'est quelqu'un de tranquille, donc peut-être un peu moins débrouillard. Là, j'interprète, hein, mais... Est-ce que Jacob et Rebecca craignaient plutôt pour leur avenir à la mort d'Isaac? Peut-être que Jacob devrait partir dans une autre contrée. En tout cas, quelle que soit leur motivation, leur plan, à tous les deux, il est complètement nul. C'est le plan le plus nul que j'ai jamais vu. C'est nul. Et c'est nul pourquoi? Parce que même si le plan, il marche, et on va le savoir, il marche, d'accord? Isaac, il bénit Jacob à la place d'Ésaü. Même s'il marche, eh ben, le prix à payer va forcément être très fort. Bien sûr que ça va se savoir. Bien sûr que Ésaü va rentrer de la chasse. Bien sûr qu'il ne va pas être content. Et sa réaction à Ésaü est plutôt prévisible. Je prends un peu d'avance sur l'histoire. Ésaü, il n'est pas très content. Et il annonce qu'il va tuer son frère. Donc Jacob se retrouve obligé de fuir, sans rien. Il doit partir loin de sa famille, dans une région complètement différente, où il est seul et vulnérable. Et d'ailleurs, là-bas où il est seul et vulnérable, il y a d'autres qui vont profiter de lui. Hein, on connaît Laban, donc, qui a profité de la situation de Jacob. Le trompeur Jacob se retrouve à son tour trompé par d'autres personnes. Donc, en tout cas, si c'était la peur qui l'a motivé, bah, finalement, bah, le plan il produit exactement la situation dont ils avaient peur. Jacob il se retrouve largué, loin de la famille, sans rien. Et c'était complètement prévisible. Et c'est pour ça que je me dis, ce plan, il est nul. Et tellement il est nul, je me dis que Jacob et Rebecca devaient être dans un état de peur ou de stress ou d'anxiété assez avancé pour se dire que ce plan était une bonne idée. Et ce à quoi ça me fait penser, c'est ce qu'on appelle en français courant un gros coup de flip. Est-ce que vous avez déjà connu un gros coup de flip? Le truc où à un moment, vous êtes stressé, vous avez peur, il y a quelque chose, et ça vous saisit. Ça vous saisit là. Et après, ça vous saisit là. Et à un moment, on ne peut plus penser qu'à ça. Je ne sais pas, j'ai un interro demain, je vais rater mon interro. Je ne sais pas, j'ai une grosse facture qui arrive, je ne vais pas avoir les sous. Comment je vais faire pour avoir les sous? Je ne vais pas avoir les sous. Et puis, plouf, les films de catastrophe qui se déroulent devant nos yeux. On est assez fort à ça. Et quand on est dans ces situations de flip, eh ben, des fois, nous aussi, on se fait des plans nuls. Et on ne se rend pas compte que ce sont des plans nuls. Et tout ça, parce qu'on a du mal à lever les yeux. Je pense que si Jacob et Rebecca avaient pu regarder la situation posément, ils avaient plein d'éléments qui leur auraient permis d'éviter le naufrage. Déjà, ils connaissaient un petit peu Dieu. Ils n'avaient pas la parole, les Bibles comme nous on l'a. Mais Abraham, Isaac, enfin les pères, le grand-père avaient déjà vécu des choses avec Dieu. Ils avaient déjà un contexte. Rebecca avait reçu des promesses par rapport à Jacob, que son frère plus grand le servirait, etc. Donc, Jacob n'était pas destiné à mourir de faim tout seul dans le désert. Ça n'allait pas se passer. Peut-être qu'il trouvait que la réalisation de la promesse tardait, que Dieu était un peu lent dans l'accomplissement de ses promesses, hein, comme il peut l'être. Parfois, on a besoin de lui donner un petit coup de booster, Dieu, des fois, parce qu'il ne va pas à notre rythme. Alors, je monte un peu un dossier contre Rebecca et Jacob, là, à charge, vous avez l'impression, ce n'est pas pour les juger. Ça, c'est Dieu qui gère. Mais nous, finalement, on a aussi tellement de raisons de ne pas avoir peur, de pouvoir contrer la peur quand elle arrive, quand il arrive ce coup de flip. On a tellement de promesses dans la parole de Dieu. J'en cite quelques-unes, mes préférées, qui me viennent à l'esprit. Jésus qui dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours, hein, jusqu'à la fin. » Ou Jésus quand il parle des oiseaux du ciel, Les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, etc., etc. Et Dieu pourvoit à leur nourriture. Combien vous êtes plus précieux que les oiseaux. On a toutes ces promesses dans la parole. On voit, nous, tout ce que Dieu a fait à travers l'histoire, le plan de salut. On voit l'arrivée de Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le monde, c'est qui? C'est vous, c'est moi. D'accord? Il a donné son Fils unique tellement il nous aimait pour nous sauver, pour nous pardonner nos péchés. Donc, c'est qu'il va prendre soin de nous. Et ça, c'est un combat parfois là-bas dedans. Tous les jours, des fois toutes les minutes. Je sais pas vous, mais des fois, je suis en stress de quelque chose. Allez, j'ai une facture, j'espère pas savoir payer, machin. Ok. Seigneur, c'est bon, je sais que tu t'occupes de moi. Je sais que j'aurai tout ce dont j'ai besoin. Et je sais que toi, de toute façon, tu as tous les moyens, l'argent et l'or est à toi, c'est bon. Tranquille. Ah, oh, je me sens mieux. Ah, oh, merci Seigneur. 5 minutes plus tard, ah, oh, la facture quand même, comment on va faire? Ah, il faut répéter, c'est fatigant, c'est un exercice. Et voilà. Mais c'est un bon exercice. Certains appelleraient ça une discipline de foi. Et c'est très bien qu'on arrive à rester là-dedans. Allez, je vous donne la suite de l'histoire quand même si j'ai un peu trahi la fin. Donc, Jacob vient vers son père et lui dit « Mon père !» Isaac dit « Me voici. Lequel de mes fils es-tu » Jacob répondit à son père « Je suis ton fils aîné, Ésaü. Je me suis conformé à tes instructions. Lève-toi donc, installe-toi et mange de mon gibier, afin de me bénir. » Isaac dit à son fils, « Comment ça? Tu en as vite trouvé, mon fils. » Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche-toi donc, que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha de son père Isaac, qui le toucha, et dit, « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü, et il le bénit. Il dit, « Est-ce bien toi, mon fils Ésaü ?» Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Sers-moi, et que je mange de ton gibier, mon fils, afin de te bénir. » Jacob le servit, et il mangea. Il lui apporta aussi du vin, et il but. Puis son père Isaac lui dit, « Approche-toi donc, et embrasse-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Il le bénit alors en disant, « L'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée, du ciel et des richesses de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudits soient tous ceux qui te maudiront et bénis soient tous ceux qui te béniront. » Bon. Il va au bout du bout, Jacob. Il ne recule devant rien. Il ment à son père en face, profitant du fait qu'il ne voit pas. Même il invoque Dieu en plein milieu de son mensonge. Vous avez dit, ah, mon fils, t'as vite trouvé. Oui, c'est Dieu qui m'a donné. C'est infect ce qu'il est en train de faire. Encore un abus de personnes vulnérables, si on pourrait en citer. Un mensonge appelle un autre, c'est le problème des mensonges. On commence avec un petit mensonge juste pour arranger les choses, et puis finalement il faut un moyen mensonge pour couvrir le premier petit mensonge, et puis enfin il faut un gros mensonge pour couvrir le moyen. Et bien Jacob, il est à fond là-dedans. Je ne vais pas lire dans le texte la suite de l'histoire, parce que ça va faire beaucoup, mais par contre je vous donne quelques éléments, et puis la dernière... avec lequel je voulais vous laisser. Donc bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas la fin. Ésaü, il arrive vite sur scène. Il découvre que son frère lui a volé la bénédiction. Il est très en colère et se dit que dès que Isaac meurt, hop, il va tuer son frère. Rebecca, bon, l'apprend et elle dit à Jacob de s'enfuir chez son oncle. Finalement, Jacob reste loin de sa famille pendant 20 ans. Il se marie 2 fois. Malgré lui, il se fait tromper de marié, Vous connaissez peut-être l'histoire, hein. Il se met d'accord avec son oncle pour épouser sa deuxième fille. Il travaille 7 ans pour pouvoir se marier avec la deuxième fille. Et puis finalement, l'oncle, il lui donne la plus grande, la fille aînée. Donc il se retrouve dans une situation où il promet de travailler 7 ans de plus pour avoir quand même la deuxième fille aussi. Et donc il travaille 14 ans pour ces deux femmes. Donc il se fait bien avoir, on pourrait dire. Il a des enfants. Il sent, a priori, jamais retourner voir son père, sa mère, ni son frère. Isaac, finalement, il ne meurt pas du tout à cette époque-là. Donc tout ce sketch de sa mort, etc., c'était pas du tout le moment. Rebecca, a priori, ne revoit jamais Jacob, ni ses petits-enfants. Quel bilan familial catastrophique pour un coup de flip. Ou peut-être une autre motivation. Je n'ai pas tout compris pourquoi ils se sentaient poussés à ce point à faire cela. Je vous propose que c'était peut-être la peur. En tout cas, la peur, elle nous fait faire des trucs bizarres. Mais enfin, pourtant, il y a aussi des éléments heureux. Il y a des fins heureuses dans cette histoire. 20 ans plus tard, Ésaü et Jacob se rabibochent. Tous les deux sont riches. Ils sont peinards, ils essaient de se faire des cadeaux, mais ils ne veulent même pas recevoir les cadeaux les uns des autres, parce qu'en fait, ils sont riches, ils ont tout ce qu'il faut. Isaac revoit Jacob avant de mourir. Et surtout, le plan de Dieu se réalise malgré le péché de Jacob. D'accord ? Dieu, il avait tout un plan. D'accord ? Il avait fait des promesses à Abraham, il avait fait des promesses à Isaac, il avait fait des promesses à Rebecca par rapport à Jacob, ce qu'il deviendrait, etc. Il avait prévu que Jacob deviendrait le père d'une grande nation. Et Dieu n'avait pas besoin que Jacob trompe, mente, abuse de tout le monde comme ça. C'était pas obligé. Pourtant, Jacob l'a fait, mais ça n'a pas annulé le plan de Dieu pour Jacob. Il a fait des bêtises. Jacob, il a porté les conséquences de ses bêtises dans sa vie, il a souffert hein, d'être loin de sa famille, etc. Mais Dieu n'a pas été désarçonné par ça, il n'a pas été surpris et il n'a pas été dérouté. Et ça n'a pas empêché Dieu de le bénir. Et je vous propose ce matin de faire la même réflexion. Moi j'ai fait des bêtises, ça n'a pas empêché Dieu de me bénir. D'accord ? Dieu est plus grand que notre péché. Il a déjà prévu depuis longtemps un moyen de nous pardonner. D'accord ? Ce moyen, c'est Jésus-Christ qui est venu sur terre, qui est mort pour nous, qui est ressuscité. Il a pris notre péché, il a pris la punition de notre péché. Et Dieu nous pardonne par le biais de Jésus si on se repent de ce qu'on a fait. Et je crois que Jacob, c'est pas rapporté dans le texte, mais je crois qu'il s'est repenti devant Dieu de ce qu'il a fait. Je l'imagine. Et nous aussi, c'est pareil. Même nos boulettes les plus graves ne peuvent pas empêcher Dieu de nous aimer, ne peuvent pas empêcher Dieu de nous pardonner, ne peuvent pas empêcher Dieu de nous bénir. Donc Seigneur, aide-nous. Aide-nous dans nos coups de flip, nos coups de stress, ou toutes ces choses qui peuvent nous animer, nous faire en sorte qu'on fasse des bêtises. Aide-nous à te connaître mieux. Aide-nous à nous repentir, te demander pardon. Et merci Seigneur parce que tu n'es pas surpris, tu n'es pas dérouté, et tu nous aimes, et tu as un plan pour nous. Merci Seigneur. Merci, j'ai terminé.